On se retrouve donc pour parler de la Première Guerre mondiale à Chevilly. Je commence par un récit sur les fratries, c'est-à-dire qu'il y a des familles à Chevilly qui ont été véritablement décimées. Dans cette tuerie que fut la Première Guerre mondiale, il y a eu des drames humains qui ont touché les familles de Chevilly, qui avaient chacune un ou plusieurs fils mobilisés sur le front. Trois familles ont eu trois frères tués au champ d'honneur. À la Croix-Briquet, Louis et Alphonsine Barberon ont 10 enfants, dont 9 garçons. 7 d'entre eux seront mobilisés pendant la Grande Guerre, les 2 derniers étant trop jeunes. 3 d'entre eux sont morts au front, Louis en 1914, Georges et Maurice en 1917. Les 2 suivants, trop jeunes, plus jeunes, ne partent au front qu'en 1918, avec en tête évidemment la mémoire de leur frère mort 1 an plus tôt. Ils ne combattront que quelques mois et reviendront de cet enfer. Toujours à la Croix-Briquet, c'est la famille Lefièvre qui, elle aussi, va perdre 3 de ses fils, Lazare, Hector et Octave. Curieusement, Octave, mort à Verdun en 1916, ne figure pas sur notre monument aux morts, mais sur celui d'Oussoy en Gâtinais, près de Lorris, où il s'était marié avant la guerre et avait eu 2 enfants. Par contre, on peut y voir le nom de son frère, Hector, décédé en 1931 chez lui à la Croix-Briquet, après avoir eu 2 enfants après la guerre. En fait, il était revenu du front pour blessure et on a considéré que son décès était dû aux suites de ses blessures. Pour autant, il n'a pas été déclaré mort pour la France. Autre famille qui a eu 3 fils morts au combat, aux Chapelles, c'est Jean et Isabelle Lecomte qui perdent leurs 3 fils. Dans une famille de 11 enfants, dont 7 fils, 4 sont mobilisés, 3 seront tués, Henri, Léon et Lucien. Seul Jean reviendra. D'autres familles chevilloises connaîtront des fortunes diverses. Chez Jean et Marie Cellier, 5 garçons sont mobilisés, Henri, Louis, Paul, Pierre et Édouard, tous reviendront du front. Chez Euvert Proust, 4 garçons sont mobilisés, Amédée, Charles, Fernand et Léon, tous reviendront du front. Chez Alphonse et Marie Blot, 4 garçons seront mobilisés, Armand, Léon, Albert et Charles, tous reviendront du front. Chez Alphonse et Marie Hudin, 5 garçons sont mobilisés. Les 3 aînés, Albert, Jules et Louis, âgés de plus de 30 ans, reviendront. Les 2 plus jeunes, Octave et Lucien, seront tués. Chez Paulin et Pauline Sanson, 4 garçons sont mobilisés. Camille et Désiré reviendront. Paul et Jacques seront tués. La famille Pépin. C'était le boulanger de Chevilly, Charles Pépin, qui voit 3 de ses fils partir à la guerre. Les 2 plus jeunes sont mobilisés dans le même régiment d'infanterie et vont combattre en Argonne en 1915. En février, à Vauquois, Jean Pépin voit mourir sous ses yeux son frère aîné, Pierre, lors d'une attaque. Il s'était lancé bravement le 17 février à l'assaut des tranchées ennemies, a vu son frère tomber, mortellement blessé à ses côtés, a continué à se porter en avant avec le plus grand courage. Il mourra à son tour au combat en 1918, 1 mois avant l'armistice. De la famille Pépin, seul Marcel, l'aîné, reviendra du front après avoir combattu pendant les 4 années de la guerre. Je vais maintenant vous parler de quelques familles chevilloises dont les fils ont eu un parcours particulier pendant cette Première Guerre mondiale, la famille Patricot, la famille Darblay et la famille Porchon. Donc pour commencer, la famille Patricot, donc c'était les propriétaires du château de Chevilly depuis le début du XXe siècle. Cette famille avait 3 fils et qui sont devenus 3 officiers pendant la Grande Guerre et 3 légions d'honneur, ce qui est remarquable. Le premier de ces 3 fils, Adolphe, a été chevalier de la Légion d'honneur et croix de guerre 14-18 avec étoile de bronze. Ensuite, André Patricot, qui a été, après la guerre, promu capitaine en 1934 et commandant d'artillerie de réserve. Son fils, il faut le signaler, qui s'appelait Guy, a été engagé volontaire lors de la Deuxième Guerre mondiale et tué dans son char d'assaut peu après la libération de Paris. Donc mort pour la France, il est inhumé dans le carré militaire de Chevilly. Et enfin, Henri Patricot, lieutenant-colonel et officier de la Légion d'honneur. Donc une famille, donc cette famille Patricot, avec un parcours militaire très particulier pour ses 3 fils. Parmi les familles notables de Chevilly à l'époque, il y avait ensuite la famille Porchon. Le père était le notaire du village et la famille habitait la belle maison qui est devenue aujourd'hui l'hôtel-restaurant La Gerbe de Blé. Monsieur et Madame Porchon avaient 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Les 2 garçons s'appelaient Marcel et Robert. L'aîné, Marcel, se tournait vers une carrière religieuse, puisqu'après des études de droit, il faisait partie des frères bénédictins. Robert, lui, après avoir obtenu son baccalauréat, avait commencé des études militaires à la prestigieuse école de Saint-Cyr. Il est reçu en 1913 à Saint-Cyr, mais en 1914, c'est la guerre, et il ne peut donc pas terminer ses 2 années de formation militaire. Il est alors mobilisé en tant que sous-lieutenant. Et là, le hasard de l'histoire veut qu'il se retrouve dans le même régiment, la même compagnie et le même bataillon qu'un certain Maurice Genevoix. Tous les deux sont officiers et commandent une section de cette compagnie. Ils s'étaient connus avant la guerre, au lycée Potier d'Orléans, et ils allaient donc vivre la même guerre, leur guerre. Ils allaient devenir frères d'armes, compagnons de route et amis intimes. Leur guerre, ce fut la suivante. Après avoir participé à la bataille de la Marne en septembre 1914, leur unité va combattre à la bataille des Éparges, non loin de Verdun. C'est là qu'ils meurent, le 20 février 1915, d'un éclat d'obus dans la poitrine. Il sera inhumé dans la nécropole nationale du trottoir, aux Éparges. Aujourd'hui encore, sa tombe est la seule à être fleurie pratiquement toute l'année. Genevoix, lui, est blessé grièvement 2 mois plus tard, au même endroit. Dans son ouvrage, Ceux de 14, qu'il allait écrire ensuite, il racontera précisément et abondamment le parcours de son ami Porchon et comment il avait été bouleversé et traumatisé par sa disparition. Dans un courrier envoyé à la mère de Robert Porchon, il se dit même désolé, quelque part, d'avoir pris la place de son ami dans le monde des vivants. Un hommage de Genevoix à son ami Robert dans Ceux de 14. « Chez toi, Porchon, lampe, le beauce, les champs de blé au crépuscule, les corneilles dans le ciel frais, entre les 2 tours de Sainte-Croix. Chez nous, Porchon, la Loire au fil des berges lentes. » Après, il s'ensuit le succès d'édition de l'ouvrage Ceux de 14, qui allait être désigné comme le meilleur ouvrage sur le sujet, le plus réaliste et le plus fidèle, puisqu'il est écrit par un témoin direct des événements. Et c'est comme ça, sous la plume de Genevoix, que Robert Porchon allait devenir le soldat le plus connu de toute la Grande Guerre. Au point qu'Emmanuel Macron, en 2018, lors de son itinéraire mémoriel sur les champs de bataille pour le centenaire, s'était recueilli sur la tombe de Porchon aux Éparges. En 2019, lorsque Genevoix est entré au Panthéon, le président a cité Porchon, notre héros chevillois, à plusieurs reprises dans son discours de présentation. Drame familial. Quelques semaines plus tard, le 7 avril, son frère Marcel décédait à son tour. Leur mère, qui venait de perdre son mari juste avant la guerre, allait aussi perdre, dans la même année 1915, son frère Gabriel Delarue, qui était général, et son gendre Aristide Jambot, qui s'était marié en 1910 à Germaine Porchon. En 1916, sur les 28 actes de décès enregistrés par la mairie de Chevilly, 11 sont des transcriptions d'actes de décès de soldats morts au front, dont Porchon. Quelques mots maintenant sur la célèbre école militaire de Saint-Cyr et le destin prestigieux qui s'offrait à Robert Porchon avant la guerre. Sur les 536 officiers issus de la promotion de Robert Porchon, celle de 1914, plus de la moitié seront tués au cours de la Première Guerre mondiale. Malgré tout, cette promotion donnera à l'armée française pas moins de 32 généraux. S'il n'avait pas disparu en 1915, Robert Porchon aurait donc certainement et rapidement gravi de nombreux échelons dans la hiérarchie de l'armée française. À titre d'exemple, d'autres promotions de Saint-Cyr ont compté des élèves célèbres, Alphonse Juin, futur maréchal de France, ainsi que le jeune Charles de Gaulle, au destin que l'on connaît, était comme Porchon saint-cyrien, promotion 1912, soit 2 ans plus tôt, et comme lui sous-lieutenant dans l'infanterie française en 1914. Enfin, pour terminer, un tragique clin d'œil de l'histoire. Alain Fournier, le célèbre auteur du Grand Maulne en 1913, lieutenant au 288e régiment d'infanterie, meurt au combat en 1914 près de Verdun, à 2 km des Éparges, là où Porchon tombera quelques mois après. Il se trouve qu'à Chevilly, l'école municipale porte le nom d'Alain Fournier, et à 100 mètres de là, on a inauguré un parc municipal Robert Porchon en 2018 sur un terrain qui appartenait à l'époque à la famille Porchon. 100 ans plus tard, l'école municipale de Chevilly porte le nom d'Alain Fournier et rappelle ainsi son souvenir. Voilà quelques mots donc sur ce Robert Porchon, l'enfant de Chevilly, qui a marqué notre histoire, l'histoire de la Grande Guerre. Et enfin, la famille d'Arblay, qui était une des familles notables de Chevilly à l'époque, puisqu'elle a donné plusieurs maires de Chevilly et également un député. Et dans cette famille d'Arblay, il y a eu un poilu qui a été un aviateur, ce qui était assez remarquable à l'époque, il y en avait très peu. Cet aviateur s'appelait Henri d'Arblay. Et donc à l'époque, l'infanterie, c'était 95% des effectifs. Et Henri d'Arblay a fait partie d'une unité d'élite qu'on n'appelait pas encore l'armée de l'air. Il est né en 1894 à Chevilly. Et donc, comme je disais, il est le digne descendant d'une lignée de maires de Chevilly et autres députés du Loiret. Ancien élève de Sainte-Euverte, il préparait, quand la guerre a éclaté, l'école centrale au lycée d'Orléans. Mobilisé en 1914 au 10e régiment de dragons, il obtient son brevet de pilote en 1916 à l'issue d'un stage avion rapide à Avord, dans le Cher. Participant au combat de Verdun, puis à la bataille de la Somme, le maréchal des logis Henri d'Arblay est grièvement blessé lors d'un combat aérien le 22 décembre 1916. Il mourra des suites de ses blessures à l'ambulance de Villers-Bretonneux dans la Somme. Sa mort est annoncée dans le journal officiel, dans le tableau d'honneur des morts pour la France, ainsi que dans la presse quotidienne de l'époque, le Figaro du 5 janvier 1917 et le journal du Loiret. Je vais maintenant vous parler de l'après-guerre et notamment la façon dont on a voulu rendre hommage à nos poilus avec les monuments aux morts. Après la guerre, les 36 000 communes françaises ont voulu rendre honneur à leurs enfants tombés au combat en faisant ériger leurs monuments. Parfois, on a aussi fait poser une stèle dans l'église du village, comme à Chevilly. D'ailleurs, parfois, on n'a pas exactement les mêmes noms sur le monument et sur la stèle. Il y a eu aussi à l'époque, pour rappeler la mémoire de nos soldats, un livre d'or. C'est un document papier qui dressait la liste de tous les poilus morts pour la France. Ce document existe pour Chevilly, comme pour toutes les communes. Il peut être consulté d'ailleurs. Monument, stèle, livre d'or. À Chevilly, la commune avait aussi fait réaliser un tableau d'honneur encadré, comportant la liste des soldats morts pour la France ainsi que leurs citations. Un tableau qui avait dû être posé quelque part en mairie. On en trouve la trace dans le registre des délibérations, mais on ne l'a jamais retrouvé. Quelques statistiques maintenant pour arriver à une sorte de bilan. Chevilly et la France, même combat. Écoutez-moi bien. À l'échelle de la nation, sur 40 millions d'habitants en 1914, plus de 8 millions d'hommes seront mobilisés, soit 20% de la population globale. Sur ces 20%, on comptera à la fin de la guerre 1,4 million de morts, soit presque 20% de l'ensemble des soldats. Au final, on estime donc que près de 5% de la population française a disparu à l'issue de la guerre. Si on regarde ces chiffres à l'échelle de notre commune, on s'aperçoit que ce sont sensiblement les mêmes proportions qui s'appliquent. Sur les 1500 habitants recensés avant la guerre, environ 350 partent au combat et 70 mourront au champ d'honneur. On peut aussi transposer sur Chevilly une statistique nationale qui veut que, en marge des soldats morts pour la France, la moitié des conscrits reviendront blessés, gazés, amputés, défigurés ou aveugles. On peut donc imaginer qu'à Chevilly, en 1920, plus de 150 hommes étaient dans ce cas, grands blessés, gueules cassées, etc. Quand on a fait nos recherches sur les poilus de Chevilly, on a aussi tenu à s'intéresser aux soldats de Curey-Réval, la petite ville anglaise qui est aujourd'hui jumelée à Chevilly. En effet, de chaque côté de la Manche, on s'est mobilisé pour la défense de son pays. En 1914, la population du village de Curey-Réval était, comme à Chevilly à peu près, d'environ 1500 personnes. Plus de 150 de ses habitants ont été mobilisés durant les 4 années du conflit, dont 20 sont morts au front. On constate que les premières victimes, en 1914, sont des militaires de carrière. Ensuite, les réservistes mobilisés tomberont successivement sur les champs de bataille où l'armée britannique est engagée. La Picardie, le Nord, et également les fronts d'Orient, d'Arabie et de Palestine. Deux soldats anglais de la Première Guerre mondiale sont inhumés au cimetière de Curey-Réval. Frédéric Francis, sergent au 53e bataillon d'infanterie canadienne, décédé en 1916 à l'âge de 23 ans. Il a été rapatrié est mort sur le chemin du retour. James Stuckey, caporal au régiment royal d'artillerie de campagne, décédé en 1920 à l'âge de 34 ans. La cérémonie du 11 novembre est le monument aux morts à Curey-Réval. Comme nous en France, les Anglais commémorent les sacrifices de la Première Guerre mondiale le jour de l'armistice, le 11 novembre. C'est le Poppy Day, c'est-à-dire le jour du coquelicot. Même si le jour n'est pas férié comme chez nous, une minute de silence est observée devant les monuments aux morts et des gerbes de coquelicots déposées devant la population rassemblée. C'est l'équivalent des bleuets de chez nous. Comme les 70 poilus inscrits sur notre monument aux morts, les 20 tomis de Curry Revel morts sur le sol français sont célébrés tous les ans, le jour de l'armistice. Le monument aux morts de Curry Revel. Le War Memorial présente une liste de 21 soldats anglais tombés pendant la Grande Guerre. Et comme à Chevilly, une stèle commémorative a été installée dans l'église du village, reprenant les noms de ces héros. Je terminerai cette chronique en vous parlant de la Seconde Guerre mondiale, les causes de ce conflit étant multiples, mais sur le fond, il est évident que la Première Guerre mondiale ne s'est pas terminée le 11 novembre 1918, et le traité de Versailles a créé plus de rancœur qu'il n'a résolu de problèmes. L'histoire est un éternel recommencement. De septembre 1939 à juin 1940, des troupes françaises ont stationné à Chevilly. Au lendemain de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, la France, solidaire, entre en guerre. Le 1er septembre 1939, c'est la mobilisation générale. Un poste de DCA de l'armée française, défense antiaérienne, est installé au château de l'Ermitage, et un bataillon du 131e régiment d'infanterie d'Orléans est cantonné à Chevilly. Ces troupes françaises resteront dans notre village jusqu'en juin 1940. Le 15 juin 1940 a lieu le bombardement de la ligne SNCF à Chevilly. En plein exode, des avions italiens et allemands bombardent deux trains de réfugiés et de troupes dans la gare de Chevilly, faisant 22 morts et 40 blessés au passage à niveau près du bourg. De juin 1940 à août 1944, ce sont les Allemands qui occupent Chevilly. Le 16 juin, l'armée allemande s'installe à Chevilly, la proximité de l'aéroport de Brissy étant un point stratégique pour la Luftwaffe. Pendant l'occupation, le général Rommel aurait séjourné au château, son séjour ayant été écourté par une panne d'électricité providentielle provoquée par un habitant de la commune. C'est ce qu'on raconte encore aujourd'hui. Les Allemands ne quitteront Chevilly qu'à l'arrivée des troupes américaines le 16 août 1944. Les jours qui précédèrent l'arrivée des Américains furent ponctués de nombreux bombardements sur la voie ferrée, les gares des Aubrais et la base de Brissy. Le 16 août, les Allemands s'enfuient en débandade et vers le début de l'après-midi, les Américains arrivent à travers champs et par la route de Sougy. Le général Patton, qui commandait la 3e armée américaine, délivra Orléans et s'installa au château de Chevilly pour une dizaine de jours. Voilà, cette chronique sur la Première Guerre mondiale est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle chronique d'histoire locale. Merci à vous et à bientôt.